À la une, la présentation du pacte de refondation économique et sociale. 240 milliards de francs vont être débloqués par l'État pour lancer des projets sur le territoire. L'examen du projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie a débuté son parcours législatif à Paris avec la commission des lois à l'Assemblée nationale. Le gouvernement demande à l'État que la Nouvelle-Calédonie puisse bénéficier du dispositif national de compensation face à la hausse des prix de l'énergie, notamment que les Calédoniens payent le même prix de l'électricité qu'en métropole. Le collectif des usagers d'Air Calédonie à Marée refuse toujours le retour des avions de la compagnie sur l'île dans le cadre d'un corridor sanitaire après les premières rotations mises en place à Lifou et Ouvéa. Dans le reste de l'actualité, cette année, la Calédonie comptera 38 classes de défense, un dispositif qui fait ses preuves destiné aux élèves de 3e et de 2e. Une matinée contre les violences au lycée d'Okamo. Les jeunes prenaient part à des ateliers en présence de professionnels et d'associations pour comprendre cette problématique. Et le sport, 18 Calédoniens ont pris la direction de l'Australie pour les Océanias de Taekwondo. Ils seront opposés aux meilleurs combattants de la région avec des prétendants aux prochains Jeux Olympiques. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. 240 milliards de francs sur 5 ans, c'est le montant que l'État va verser à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du pacte de refondation économique et sociale. Ce pacte a été présenté par le haut-commissaire Jacques Billan qui a réuni pour cela les responsables institutionnels et les partenaires économiques et sociaux. Mais au-delà de la somme, ce pacte porte une ambition, Jean-François Baudin.
Oui, et cette ambition, c'est la reconstruction sur des bases solides et rapidement. Le haut-commissaire a rappelé que l'État avait d'abord répondu aux besoins urgents après la destruction de l'économie calédonienne et des conséquences sociales générées par les émeutes de mai 2024. Engagement qui a permis d'éviter l'effondrement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. En 2024, l'État a débloqué 360 milliards de francs, puis 350 l'an dernier. Ce pacte est donc une nouvelle étape, a souligné le haut-commissaire Jacques Billan.
Après le temps de l'urgence, nous ouvrons aujourd'hui le temps de la reconstruction. Car chacun le sait, gérer la crise ne suffit pas. Et l'enjeu aujourd'hui est bien de rebâtir durablement l'économie et de redonner confiance aux acteurs du territoire. C'est tout le sens du pacte de refondation économique et sociale pour la Nouvelle-Calédonie qui vise à relancer l'économie, qui vise à investir dans l'avenir et qui vise à redonner confiance.
Et pour cela, 240 milliards de francs vont donc être consacrés à ce pacte de refondation préparé dans le cadre de la mission interministérielle dirigée par Claire Durieux, qui a aussi associé tous les acteurs économiques et sociaux du territoire et bien sûr les institutions. Après les épreuves traversées par le territoire, l'État a fait le choix de la solidarité nationale et de la responsabilité, a insisté la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui avait enregistré un message vidéo spécialement pour cette occasion.
Ce temps de l'urgence était nécessaire. Le temps de la refondation est venu. Ce pacte marque une nouvelle phase, celle de la relance, celle de la confiance retrouvée. Il vise à donner de la visibilité et de la stabilité aux Calédoniens, à ceux qui travaillent, à ceux qui étudient, aux entreprises et aux investisseurs.
Le haut-commissaire a ensuite détaillé ce pacte de refondation qui repose sur 6 piliers. Ce n'est pas une simple addition de lignes budgétaires, mais bien une stratégie sur les 5 prochaines années qu'il va permettre de déployer.
Le pacte, c'est d'abord une stratégie pour reconstruire. La refondation ne se décrète pas, elle se construit avec une stratégie claire et des priorités assumées. Le pacte repose ainsi sur 6 grands piliers qui répondent aux principaux défis économiques et sociaux du territoire. Le pilier 1 consiste à relancer l'activité et l'emploi afin de remettre l'économie en mouvement. Il s'agit, dans le cadre de ce pilier, de soutenir les entreprises, de faciliter leurs investissements et d'encourager les initiatives locales pour recréer des emplois durables.
Sur ce pilier, le pacte prévoit une baisse d'impôts sur les sociétés et les zones franches, des garanties bancaires et du microcrédit consolidé, notamment en terre coutumière, ainsi qu'une défiscalisation pour la reconstruction des entreprises détruites pendant les émeutes. Le pilier 2 prévoit d'investir dans les infrastructures essentielles, de diversifier l'économie et de protéger les populations face au changement climatique et prévoit un plan quinquennal de protection des populations et de désenclavement, point sur lequel une communication plus précise précise est prévue dans les prochaines semaines, tout comme sur le pilier 3 qui consiste à construire un modèle durable pour le nickel. D'ici la mi-2026, les partenaires calédoniens, avec l'appui de l'État, devront élaborer un plan de transformation de la filière nickel et prendre les engagements nécessaires à son succès. La jeunesse n'est pas oubliée puisqu'elle est au cœur du quatrième pilier de ce pacte et prévoit 1000 parcours d'insertion et d'engagement, 100 postes supplémentaires d'éducateurs et médiateurs et la création d'une compagnie supplémentaire du RSMA. Le cinquième pilier consiste à rétablir les finances publiques et le sixième à renforcer la cohésion sociale par des actions de proximité. Sur tous ces points, la volonté de l'État est d'aller vite, a rappelé le haut-commissaire. Et l'État a validé déjà la mise en œuvre de 64 projets présentés par les institutions. Parmi ces projets, entre autres, la réhabilitation des ponts de la Tontouta et de Nouville, une nouvelle liaison Yengen-Kaalagomen, une liaison Koutio-Ducos, des projets d'alimentation en eau potable ou équipement de gestion de déchets pour plusieurs communes ou encore la construction d'un centre d'incendie et de secours au Mont d'Or, des projets d'aménagement touristique sur les îlots Amédée et Canard, etc., etc. 64 premiers projets que l'État va prendre à sa charge à 100% pour un montant de 76 milliards de francs. Des projets concrets dont certains sont déjà lancés et les autres doivent démarrer avant la fin de l'année. Ce qui fait dire au haut-commissaire, nous franchissons une étape importante.
Le pacte entre désormais dans sa phase opérationnelle. Ces projets marquent le début concret de la mise en œuvre du pacte sur le terrain. Et ils illustrent une priorité simple, agir rapidement et produire des effets visibles pour les Calédoniens. Avec l'investissement de l'État, nous espérons que des projets qui auraient pris des années vont pouvoir finalement commencer très vite et en tout état de cause dès 2026.
Les 64 projets qui doivent donc démarrer cette année 2026 seront suivis d'autres. L'État continue en effet de recenser les besoins des collectivités pour ces projets qui seront lancés dans les années à venir.
Les acteurs économiques et sociaux qui ont contribué à l'élaboration de ce pacte dans le cadre de la mission interministérielle sont satisfaits de l'engagement de l'État. Une bonne nouvelle pour l'emploi, a souligné Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC à la fin de la réunion.
C'est un signe positif, je le prends comme ça. Le haussaire a été clair en précisant qu'il fallait que ça démarre au plus vite. Et même, il a été jusqu'à dire qu'un bon nombre de projets seraient pris en charge à 100% par l'État pour faire en sorte que ça s'accélère le plus. Donc c'est vraiment un signe positif et j'espère qu'on va pouvoir constater de nouvelles créations d'emplois, que les entreprises vont reprendre de manière à relancer cette économie.
Un plan satisfaisant également pour le vice-président de la COGETRA, Tony Dupré, qui espère des retombées positives rapidement.
Nous sommes très satisfaits au MEDEF de ce qui vient d'être présenté. La présentation vient confirmer là, le début et le lancement de travaux concrets sur l'ensemble du territoire. C'est très important pour la relance, pour la survie de l'économie calédonienne. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Non, il va nous manquer quelque chose. Une stabilité institutionnelle et un accord.
Voilà, il s'agissait donc de Bertrand Courte, hein, le président du MEDEF, qui saluait également ce pacte de refondation économique et sociale. La suite des réactions toujours après cette réunion donc au commissariat.
Satisfaisant dans la mesure où il est conforme à nos attentes en matière d'engagement de l'État, hein, notamment d'engagement financier. La chose que nous on relève, c'est que les travaux vont vite démarrer sur tous ces projets-là, structurants. Pourquoi ? Parce qu'on est inquiet par rapport aux derniers chiffres de l'ISEE en matière d'emploi, hein, où on nous annonce encore une fois une perte de 2000 emplois sur un an. Donc il est temps que cela débute.
Voilà donc pour la réaction du vice-président de la COGETRA, Tony Dupré. Le président du gouvernement, Alcide Pongas, salue lui aussi ce pacte de refondation, mais il n'oublie pas la part que doit prendre la Nouvelle-Calédonie dans la reconstruction économique et sociale.
Ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est toute la partie d'engagement de l'État, avec 240 milliards à peu près sur 5 ans qui devront être déversés dans des projets d'investissement des collectivités sur le territoire et puis d'autres secteurs également. C'est une partie du pacte de refondation. Il y a l'autre partie qui est aussi le travail de réforme que nous-mêmes, les élus calédoniens, devons nous atteler à faire avancer. C'est vrai qu'on est en période électorale, on sort des municipales, il va y avoir les provinciales qui arrivent, mais il faut garder ce momentum-là pour que la trajectoire qu'a pris la Nouvelle-Calédonie depuis à peu près un an maintenant, qu'elle puisse garder. quand on parle de réforme, c'est de corriger certaines choses qui, par le passé, ont fait que la Calédonie aujourd'hui est à certains égards sur des déficits structurels qu'il faut corriger, parce que sinon on se plante à la fin, quoi.
Ce pacte de refondation économique et sociale peut être consulté par tous sur le site du Haut Commissariat, et nous y reviendrons donc demain matin, puisque c'est Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle, qui sera notre invitée demain à 7h30. La Nouvelle-Calédonie au cœur d'une réunion hier soir à l'Élysée. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher se sont entretenus sur la réforme constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont fait le point sur les difficultés d'adoption du projet de loi constitutionnelle qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Elisabeth Noir.
Un projet de loi constitutionnelle adopté largement par le Sénat, on s'en souvient, le 24 février dernier. Il sera examiné à partir du 1er avril en séance publique à l'Assemblée nationale. Et la nuit dernière pour nous, la commission des lois de l'Assemblée a commencé son examen en auditionnant d'abord la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Mais on sait que l'adoption du texte sera compliquée. Aucune majorité ne se dessine pour le moment. Les députés LFI sont opposés et devraient faire de l'obstruction en multipliant les amendements. De leur côté, les socialistes, comme le Rassemblement national, refusent le texte en l'état et voudraient l'amender. Entendu par les députés de la commission des lois, Naïma Moutchou a défendu la réforme qui prévoit d'inscrire l'accord de Bougival et l'accord complémentaire Élysée-Oudinot dans la Constitution. Elle a répondu à plusieurs objections et elle a invité les députés à faire preuve de responsabilité. Elle a mis en garde contre un rejet du texte en estimant que l'alternative, c'était l'incertitude et que l'incertitude en Nouvelle-Calédonie finit toujours par fragiliser la paix civile. Les députés de la commission des lois ont ensuite entamé l'examen proprement dit du texte et notamment des amendements qui avaient été déposés. Et Naïma Moutchou a répondu à plusieurs d'entre eux, notamment aux députés du Rassemblement national, Johan Gillet, qui avait mis en cause l'absence de consensus autour de l'accord de Bougival.
Vous posez le préalable du consensus total. Si l'objectif, c'est l'unanimité avant tout, alors, dans l'état actuel de la situation, le territoire peut attendre longtemps. Et en attendant, le territoire, il s'enfonce. Moi, je pense aux Calédoniens. Moi, je vous dis ce qui est la réalité aujourd'hui de ce territoire. Ça va très mal. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. 15% de perte de PIB. Je veux dire, si ça devait nous arriver ici, si on devait parler de la situation hexagonale, on aurait des réunions d'urgence tous les jours, hein. Ce serait branle-bas de combat. Évidemment qu'on n'accepterait pas ça. C'est la même chose. Il faut se mettre à la place aujourd'hui des Calédoniens. Des entreprises continuent de fermer. Les cicatrices sont encore très visible de ce qui s'est passé il y a un an et demi. Et donc, l'immobilisme, encore une fois, le statu quo n'est pas envisageable.
Naïma Moutchou qui s'est aussi élevée contre le reproche de passage en force qui est fait à l'État.
Vous avez parlé de coup de force, mais où est, encore une fois, le passage en force quand vous avez des partenaires politiques qui discutent depuis des mois dans des discussions qui ne sont pas simples ? Je peux vous le dire puisque j'en ai mené quelques-unes avec eux. Quand ils construisent ensemble, quand ils acceptent les uns et les autres de faire des concessions, quand le Parlement est amené à débattre, quand on propose une consultation des Calédoniens eux-mêmes, c'est-à-dire les premiers concernés à la fin, je veux qu'on m'explique où est le passage en force. Vous serez amené à vous prononcer. J'espère qu'en séance publique, nous pourrons avoir des débats de fond, justement, pour que chacun dise sa position. Et c'est le Parlement qui tranchera. Et c'est la représentation nationale qui aura le dernier mot.
Parmi les intervenants au cours de la commission des lois, le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou, il a rappelé avoir signé le texte de Bougival qui, depuis, a été rejeté par le FLNKS. Il demande que les élections provinciales ne soient pas de nouveau reportées, qu'elles aient lieu au mois de juin, avant l'ouverture de nouvelles négociations.
Aujourd'hui, vous faites valoir ici, en commission des lois, un projet de loi constitutionnelle qui est contesté. Je ne vois pas à quel titre on va se permettre de trouver en tant que parlementaire des équilibres qui sont à la main du gouvernement. La perspective qui est la nôtre aujourd'hui, on votera contre. On demande à tenir les élections provinciales, ne pas faire de quatrième report, parce que sinon, c'est encore une fois trouver des excuses pour ne pas remettre sur la table l'ouvrage qui est aujourd'hui mal ficelé et sur lequel les législateurs devront trouver des équilibres qui sont intenables.
Le député Nicolas Metzdorf a lui aussi pris la parole. Il souhaite que les parlementaires valident l'accord de Bougival pour que ce soit les Calédoniens qui puissent se prononcer sur le projet de loi constitutionnelle. Et il rappelle le résultat des élections municipales pour affirmer que les Calédoniens sont majoritairement favorables à Bougival.
Il y a des élections municipales qui se sont tenues. Le FLNKS, par le porte-parole Dominique Fauchy, a dit « on va faire de ces municipales un référendum pour ou contre l'accord de Bougival ». Le FLNKS avait 15% des inscrits. Une large victoire loyaliste dans le camp indépendantiste, une percée de l'Unipalika qui soutient Bougival dans le camp indépendantiste. Pardon, mais il y a un moment donné, respectez les Calédoniens, parce qu'il n'y a pas plus colonial, en fait, de nous empêcher de choisir notre destin. Donc, pardon, je demande simplement que les Calédoniens puissent voter.
Et dans le projet de loi constitutionnelle, il est prévu que la consultation des Calédoniens ait lieu avant le 26 juillet. Les débats de la commission des lois ont ensuite été interrompus dans la soirée après le malaise d'un collaborateur parlementaire. Les discussions qui vont reprendre à 9h ce mercredi, c'est-à-dire ce soir à 19h, heure de Nouvelle-Calédonie. Et après cet examen en commission, le projet de loi constitutionnelle sera donc examiné en séance publique de l'Assemblée à partir de mercredi prochain, le 1er avril.
Au chapitre politique, le FLNKS remercie ses électeurs après les élections municipales et il livre son analyse du scrutin. Pour lui, ces élections auront permis une clarification politique majeure sur le positionnement et la représentativité des différents camps en présence, Elisabeth.
Et pour le FLNKS, l'adversaire, c'est l'UNI. Dans ce communiqué signé de son président Christian Théin, le FLNKS se félicite de résultats significatifs dès le premier tour, avec des victoires dans des bastions historiquement acquis à l'UNI, notamment à Yaté et à Touho, tout en conservant les communes de Lifou, Yangan et Bélep, et en étant arrivé en tête dans de nombreuses communes. Le FLNKS, qui affirme avoir été confronté au second tour à une mobilisation conjointe des loyalistes, de l'UNI et du Rassemblement autour d'un mot d'ordre commun, faire barrage au FLNKS. Dans ce contexte, il dénonce les fusions opportunistes, parfois contre nature, auxquelles ont procédé certaines listes unies, dans le seul objectif de mettre en échec les listes UCFLNKS arrivées en tête. Pour le président du FLNKS, ces choix politiques traduisent un virage préoccupant de l'UNI qui a préféré fragiliser l'unité du peuple kanak pour faire le jeu des partis loyalistes et du gouvernement français, engagé dans la promotion de l'accord de Bougival-Élysée-Oudinot visant à ancrer la Nouvelle-Calédonie dans la France. Fin de citation. Le FLNKS, qui revendique sa position de première force politique indépendantiste en affirmant que ses listes ont rassemblé 63% de l'électorat indépendantiste contre 26% à l'UNI. Au total, 3 électeurs indépendantistes sur 4 ont voté pour des listes anti-Bougival, affirme ce communiqué. Selon le président du FLNKS, ces résultats consacrent un revers cuisant pour l'UNI, dont le symbole restera le désaveu des signataires du projet d'accord de Bougival dans leur bastion politique traditionnelle à Yaté, Ponérihouin et Yangen. Christian Théin, qui conclut avec des menaces sous-jacentes, il affirme que dans ce contexte, toute tentative de passage en force du projet de modification constitutionnelle ferait peser un risque sérieux sur la stabilité politique et sociale du pays.
En bref, toujours après les élections municipales, le haut commissaire a bien saisi le tribunal administratif de recours contre l'élection des maires de Lifou et de Yaté à l'issue des conseils municipaux d'installation du 20 mars dernier. Dans ces deux communes, les maires ont été élus sans que les adjoints ne le soient lors de la même séance, contrairement aux règles encadrant la constitution de l'exécutif municipal. Estimant cette irrégularité de nature à affecter la validité du scrutin, le haut commissaire demande l'annulation de ces élections et l'organisation de nouvelles opérations conformes au droit. Ces recours s'inscrivent dans le cadre du contrôle de légalité exercé par l'État sur les actes des collectivités territoriales. Ils ont aussi pour objet de garantir la sécurité juridique des institutions locales et le bon fonctionnement des exécutifs communaux. Il est 18h passé de 3 minutes. La suite de l'actualité, c'est juste après une pause publicitaire. Et si les Calédoniens payaient l'électricité au même prix qu'en métropole, c'est en tout cas la demande formulée par le gouvernement à l'État. On en parle dans un instant.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Michael Juleski.
Dans l'actualité institutionnelle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui tenait aujourd'hui sa séance hebdomadaire sous la présidence d'Alcide Ponga, Lionel Sabot.
Et on en retient que le gouvernement a examiné un avant-projet de loi du pays concernant la reconstruction après les émeutes de 2024. Il s'agit en fait de prolonger des mesures exceptionnelles en matière d'autorisation d'urbanisme permettant de reconstruire certains ouvrages dégradés ou détruits lors des émeutes insurrectionnelles de 2024. Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement.
On avait pris des mesures à l'époque pour simplifier les entreprises qui souhaitaient reconstruire suite aux émeutes en simplifiant les démarches administratives, notamment sur l'obtention d'un permis de construire, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient brûlé et qui souhaitaient reconstruire n'avaient pas à demander un nouveau permis de construire pour ça. La mesure arrivait à son terme. On a souhaité reprolonger cette mesure puisqu'on a des entreprises qui ont mis du temps à bénéficier du versement des indemnités d'assurance et donc c'était important de les aider. Plus de prolonger le fait que le silence de l'administration vaut accord et qu'on n'ait pas des rejets qui soient tacites, plus des mesures sur la partie terrassement des entreprises, là aussi pour des déclarations préalables qui seront simplifiées. On est vraiment dans une logique d'accompagnement et de simplification pour les entreprises calédoniennes.
Le gouvernement a par ailleurs arrêté un projet de loi du pays pour une pêche responsable et mieux encadrée dans l'espace maritime calédonien. Le gouvernement qui a également, au travers d'un avis, demandé à l'État que la Nouvelle-Calédonie puisse bénéficier du même prix de l'électricité qu'en métropole. On retrouve Christopher Gigès.
Il s'agit de demander à l'État ce que ont les autres territoires d'outre-mer, c'est-à-dire la péréquation nationale sur le prix de l'électricité. Ça veut dire clairement de bénéficier du même prix de l'électricité qu'en métropole. Seule la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont exclues de ce dispositif. On n'est pas des sous-français en Nouvelle-Calédonie. On a le droit de pouvoir de bénéficier de cette péréquation. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Calédoniens est atteint et sera encore plus atteint avec ce qui va se passer au Moyen-Orient. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir la péréquation nationale. On ne demande pas plus que ce qu'ont les autres. Et c'est ce qu'on avait demandé également sur le fret du produit des produits de première nécessité pour préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens.
Concrètement, sur l'électricité, ça pourrait faire baisser la facture des Calédoniens de combien ?
De 40 à 50%.
Et j'ajoute que si l'État venait à approuver cette demande de la Nouvelle-Calédonie, les textes pourraient entrer en vigueur début 2027.
Le Congrès est convoqué demain matin en séance publique. En session extraordinaire, les élus doivent examiner 4 projets de délibération, dont la modification du dispositif d'aide à la continuité pays. Ils doivent aussi adopter un avenant à la convention constitutive du groupement d'intérêt public Formation Cadre Avenir. À l'ordre du jour également, un projet de délibération sur l'adaptation de diverses dispositions du droit du travail et de la protection sociale en réponse à la crise de mai 2024. Les élus se pencheront enfin sur le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion du fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions par la Nouvelle-Calédonie. Justice, en bref, avec la suite de la première session d'assises de l'année à Nouméa. Hier, un homme de 56 ans a été condamné en appel pour viol et agression sexuelle sur conjoint. Il a écopé de 17 ans de réclusion criminelle contre 15 ans en première instance. Les jurés ont été plus loin que les réquisitions du procureur qui étaient de 15 ans de prison. Depuis ce matin, c'est une nouvelle affaire de mœurs qui est jugée. L'homme assis dans le box des accusés est accusé de viol et d'attouchement commis sur sa cousine qui était mineure au moment des faits entre 2020 et 2023. L'accusé était alors âgé d'une vingtaine d'années. Le procès est prévu pour durer 2 jours. Et puis en bref, une fausse alerte aux requins ce mercredi au large des baies de Nouméa. Un agent municipal s'est légèrement blessé durant les opérations de maintenance du filet de sécurité de la baie des Citrons nécessitant sa prise en charge par les pompiers. Et par précaution, la baignade et les activités nautiques ont tout de même été interdites à la mi-journée et une vérification par drone a dû être réalisée par les policiers municipaux avant la réouverture de la baignade.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Marée, c'est le 101.5.
La desserte des îles Loyauté toujours suspendue. On rappelle qu'un corridor sanitaire a été mis en place pour Lifou et Ouvéa, mais ce n'est pas le cas pour l'île de Marée, où le collectif opposé au déménagement d'Air Calédonie à la Tontouta refuse toujours le retour des appareils d'Aircal. Les explications de Kadje Yewene, l'un des porte-parole du collectif.
Le problème d'Aircal reste toujours la même. La position du collectif, c'est on n'est pas contre les évacuations, le corridor sanitaire entre la Grande Terre et Marée, mais seulement sans Air Calédonie. Si Air Calédonie s'occupe du corridor sanitaire, on aimerait bien qu'il décolle de Magenta et il atterrit à Magenta. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, on voit déjà qu'on nous critique, disant que les malades, ils débarquent bien à Tontouta, et pourquoi pas les usagers des îles. Donc ils veulent normaliser Air Calédonie sur la Tantouta. Si c'est le cas où une autre compagnie qu'Air Calédonie, il n'y a pas de souci. Le ciel de marée leur est acquis, il n'y a pas de souci. Les évasins se font régulièrement tous les jours. Je ne vois pas pourquoi les autres, mais avec Air Calédonie, comme on a des soucis avec le déménagement d'Air Calédonie sur la Tantouta, nous, on dit non. On a remis un courrier hier. On n'est pas contre le corridor. On est toujours pour que les malades soient évacués de l'île, mais sans Air Calédonie.
Près d'une cinquantaine de patients seraient concernés par une évacuation aérienne pour raisons sanitaires à Marée. On rappelle que ce mardi, 44 patients de l'IFU ont été transportés jusqu'à la Tantouta. Samedi, ce sont 50 patients et 6 personnels de santé qui avaient été transférés d'Ouvéa jusqu'à la Tantouta, tandis qu'une infirmière avait été emmenée à Ouvéa. Des réunions sont par ailleurs organisées aujourd'hui même à se dérouler à Marée, notamment avec les services sanitaires de la province des îles, pour tenter de trouver une solution. En ce qui concerne le transport maritime, le Bédidjo est quant à lui toujours immobilisé en raison d'un problème technique, au moins jusqu'au 29 mars. Pas encore de date de reprise officielle de confirmer pour la remise en service du navire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, approuvez-vous la mise en place de corridors sanitaires pour assurer la continuité des soins alors que les aérodromes des îles sont bloqués depuis plus de 3 semaines? Si vous approuvez la mise en place de ces corridors sanitaires, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 81% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits du large renouvellement des maires de Nouvelle-Calédonie constaté à l'issue des élections municipales. Ils sont à 19% à dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Un rendez-vous d'antenne, parler de l'entrepreneuriat et le soutenir. C'est le but de la semaine de l'entrepreneuriat que lance la CCI la semaine prochaine. Pourquoi le faire maintenant, dans un contexte économique compliqué? Comment accompagner les entrepreneurs ou ceux qui veulent le devenir? Ce sera demain midi le sujet des Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra Benoît Dunoguès, responsable du département gestion des entreprises à la CCI, Pierre Massenet, élu à la Chambre de commerce et directeur général du groupe SIPAC, et Lisa Mougel, présidente de l'Ordre des notaires et expert comptable, l'expert comptable Marc Fosset. Les classes de défense gagnent chaque année du terrain en Nouvelle-Calédonie. En 2026, elles sont 38, soit une de plus qu'en 2025. Ce mardi, la rentrée des classes à la base navale de Nouméa se déroulait, donc Léo Fichot.
Oui, en Nouvelle-Calédonie, les classes de défense n'ont que 13 ans. Elles ont été créées en 2013 pour renforcer le lien entre l'école et les armées. Et pourtant, avec 38 classes, vous le disiez, de défense, plus les 3 du côté de Wallis et Futuna, le territoire a un meilleur ratio qu'en métropole. La quantité, oui, la qualité aussi, explique le général Soubrier, commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Rapporté au nombre d'élèves, au nombre de classes et au nombre d'établissements, effectivement, avoir donc 41 effectivement, classes défense en incluant aussi Wallis et Futuna, c'est un ratio qui est très important. Mais au-delà de la quantité, c'est surtout la qualité du lien entre les armées et la jeunesse calédonienne qui est à souligner, je pense. Nous avons la chance d'avoir de nombreuses entités militaires. Tous les corps, toutes les armées, toutes les armes seront représentées ici en Nouvelle-Calédonie. Et la configuration territoriale fait que ces forces armées sont proches des établissements scolaires. Et donc ce qui contribue au fait d'avoir de nombreuses classes de défense, mais surtout un lien très étroit entre les militaires, les militaires représentent une population assez jeune, et la jeunesse calédonienne.
Le général Soubrier rappelle que l'objectif n'est pas de recruter, mais bien d'éveiller à l'esprit de défense.
C'est bien de faire prendre conscience de ce que veut dire la défense, de ce que veut dire service, le sens du service, la défense du bien commun, la responsabilité, le fait de faire ensemble et de participer en s'engageant au bien commun. Et je pense que c'est ça le message le plus important qu'un jeune, finalement, a lorsqu'il participe à une classe de défense sur une année. Il repart avec cette conscientisation de la responsabilité, du sens du service et de l'engagement.
Et cette année, les classes de défense seront étroitement liées aux commémorations des 80 ans du retour du bataillon du Pacifique à Nouméa.
La campagne de vaccination contre le papillomavirus a débuté dans les collèges de Nouvelle-Calédonie. Des équipes de l'agence sanitaire et sociale étaient présentes ce matin au collège Mariotti de Nouméa. Les infections à papillomavirus ou HPV peuvent évoluer vers des cancers dont le plus fréquent est celui du col de l'utérus. La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons à partir de 11 ans. Géraldine Vatelet est directrice adjointe en charge des programmes de prévention à l'agence sanitaire et sociale.
Il faut savoir que ça concerne tout le monde. 80% de la population est en contact à un moment donné de sa vie avec le papillomavirus. Donc ça veut dire que ça concerne vraiment tout le monde, les garçons et les filles. On les vaccine à cet âge-là parce que c'est l'âge où la réponse immunitaire est la meilleure. C'est un vaccin qui est totalement gratuit, qui est fortement recommandé par le calendrier vaccinal calédonien, mais aussi par l'OMS et la Haute Autorité de Santé, qui est soumis à décision parentale. L'infirmière scolaire a dû délivrer à tous les parents une décision parentale et j'engage tous les parents à remplir cette décision, qu'elle soit positive ou négative. C'est libre à chacun de pouvoir prendre sa décision, mais d'avoir une décision éclairée. Si je devais convaincre les parents, c'est vacciner leur enfant aujourd'hui. C'est leur donner la chance de ne pas avoir de ces cancers qui sont ciblés par le papillomavirus. Donc c'est quand même une chance qu'on a au niveau scientifique. Et c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui est prouvé et qui surtout est surveillé régulièrement.
Voilà, la campagne vaccinale en Calédonie s'achèvera le 29 mai. Une matinée contre les violences au lycée d'Okamo. Les élèves de seconde, première et terminale ont pu participer à des ateliers sur la violence, le harcèlement ou encore la gestion des émotions, Léo Fichot.
Le lycée d'Okamo veut briser le cycle de violence physique et verbale, que ce soit dans la cour de récré, en classe, mais aussi à la maison ou dans le sport. Et ce matin, vous le disiez, 12 intervenants étaient présents, la DAVI, la police nationale ou encore l'association Prisme et le Relais. Et ce, pour sensibiliser les lycéens, des élèves comme Jovanica et Poula, qui ont apprécié les échanges et les conseils donnés par les intervenants.
Ça dépend, il y a plusieurs ateliers. Il y a un atelier sur les femmes et les enfants d'abord. C'est un atelier contre la violence faite aux femmes et aux enfants.
Et tu trouves que c'est une bonne chose, ces ateliers ?
Oui, c'est une bonne chose. C'est de la prévention pour nous plus tard. On est tous des futurs papas et des futures mamans ici.
Puis on a fait des ateliers sur toutes les formes de violence. Il y a même la police qui est intervenue pour le cyberharcèlement. C'est une bonne chose parce qu'on apprend plus sur la violence. On sait les conséquences et puis les solutions à faire, les choses à éviter, tout ça.
Une matinée contre les violences au lycée d'Okamo qui sera de nouveau organisée l'an prochain, comme c'est le cas déjà depuis 2022.
18h passées de 16 minutes, une dernière pause publicitaire dans ce journal, puis on voit toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Paiement par téléphone, gratuit et sécurisé. Munissez-vous de votre carte bancaire et de votre dernière facture. Appelez le 05 36 36, c'est gratuit. Service ouvert de 7h25 à 16h ou 15h le jeudi et le vendredi. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Et le taekwondo avec une délégation calédonienne qui s'est envolée aujourd'hui pour l'Australie. 18 Calédoniens qui vont participer aux Oceania cadets, juniors et seniors ce week-end, Léo Fichot.
Ils vont se confronter aux plus grands combattants, on peut le dire comme ça, de la région, des Calédoniens, donc des Australiens, mais aussi des Chinois et des Coréens. Ils seront tous réunis pour une compétition prisée puisqu'elle rapportera beaucoup de points aux vainqueurs, des points qui servent pour les qualifications aux championnats du monde, mais aussi aux Jeux Olympiques. Et face à cette adversité de taille, Johan Hardel, le coach de la délégation calédonienne, veut avant tout que ses combattants prennent de l'expérience. Écoutez.
Nous, on a préparé une équipe, elle est toute nouvelle. Il n'y a que deux combattants anciens en senior. C'est plus de la découverte. On va enrichir leur expérience au niveau international. Il faut savoir perdre avant de gagner. C'est une parfait comme compétition, ça va ouvrir des esprits plus aguerris par la suite.
Les pesées sont prévues vendredi, donc demain, avant la compétition prévue samedi pour les cadets et dimanche pour les juniors et les seniors. Et
toujours hors du territoire du cyclisme sur piste, les championnats d'Australie des moins de 19 ans continuent pour les 4 Calédoniens engagés avec la poursuite individuelle et la vitesse par équipe. Hier, lors de la première journée, Chad Charret a terminé 14e de la course au point qu'Ariane Moutry et Raphaël Delatière n'ont pas terminé les 100 tours. Un mot de football avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui tient à exprimer sa fierté de voir la sélection A jouer prochainement un match contre les l'équipe de Jamaïque dans le cadre des play-offs qualificatifs à la Coupe du Monde. Je cite « Il est important d'encourager nos joueurs et leurs accompagnants qui représentent le haut niveau calédonien jusqu'au Mexique. » En effet, ces matchs qualificatifs bénéficient d'une audience importante à travers le monde entier et sont l'opportunité de mettre en avant l'excellence de nos sportifs. Fin de citation. 18h passées de 19 minutes, on termine ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Les couleurs du ciel, on voit ça avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir, vigilance jaune, forte pluie, orage sur l'ensemble des communes de la côte ouest de Koumac au Mont-d'Or pour des averses localement fortes et orageuses en soirée, en début de nuit, puis de nouveau demain après-midi. Cette nuit en soirée, des averses parfois localement modérées s'attarderont encore sur la côte ouest. Ensuite, les précipitations s'estomperont progressivement sous un ciel devenant passagèrement nuageux. Au Loyauté et sur la façade est, les nuages deviendront plus nombreux et déposeront quelques averses isolées. Le vent restera le plus souvent variable et faible et les températures, quant à elles, évolueront peu, comprises entre 22 et 25 degrés. Demain matin, le ciel alternera entre passages nuageux et belles éclaircies, plus nombreuses sur la côte ouest. Quelques ondées concerneront encore Belle et les Loyautés et l'extrême sud. Le vent, quant à lui, s'orientera à l'est-sud-est et soufflera entre 5 et 10 nœuds. Côté mer, la marée sera basse à 18h31, puis haute à 1h40 avant de redescendre demain matin à 7h40 et les niveaux évolueront dans l'ordre de 45 cm, 1m37 et puis 86 cm. Et côté ciel, la lune montante offrira un clair de lune de 46%, une lumière encore incomplète mais déjà assez vive pour accompagner la nuit comme une phrase laissée en suspens au-dessus de la Calédonie.
Merci beaucoup Pierre pour la météo et la technique. 18h passées de 20 minutes, la fin de ce journal.